carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Mirambeau.
C'est sur la musique de French Cancan que nous allons papoter ensemble, Nathalie Vamparis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Alors vous êtes la petite fille de Georges Vamparis,
oui,
à qui nous consacrons cette émission, parce que l'un de nos académiciens, Maître Petit Girard, vient d'enregistrer les musiques de films de votre grand-père.
Absolument.
Alors, vous avez une double nature, si je puis dire. Vous êtes à la fois une artiste de votre,
oui,
côté, vous êtes danseuse, chorégraphe, metteur en scène,
oui,
et vous êtes également ayant droit de l'œuvre de votre grand-père. Alors, comme souvent, personne ne sait vraiment à quoi correspond, j'allais dire, le métier. Pouvons-nous dire que c'est un métier ?
C'est une occupation, on va dire.
D'ayant droit, j'aimerais beaucoup, Nathalie, que vous nous racontiez en quoi consiste le fait d'être ayant droit.
D'être ayant droit. Déjà, dans mon cas, je ne suis pas la seule, puisqu'il y a donc 5 ayants droit de Georges Vamparis, mon frère Paul et moi, et mes 3 cousines, Isabelle, Colombe et Zouzou. Mais en fait, nous sommes surtout Paul et moi, les 2 personnes de la famille qui nous occupons activement de la gestion, parce que c'est une gestion en fait en premier, de la gestion du catalogue de Georges Vamparis. C'est-à-dire, ça consiste en fait à avoir un contact très fréquent avec déjà la SACEM, pour tout ce qui est les autorisations, voilà, la SACD, qui est donc la Société des auteurs aussi, et puis avec les éditeurs qui nous demandent très fréquemment de donner notre accord sur un certain nombre de choses que demandent les professionnels de la musique à propos de Georges Vamparis. Alors, je dirais que la première chose qui est importante en tant qu'ayant droit, c'est déjà de connaître très bien le catalogue. Et ça, en ce qui concerne l'œuvre de Georges Vamparis, c'est un sacré travail déjà au départ, puisque c'est une œuvre qui est quand même assez importante.
Je crois qu'il y a plus de 300 partitions de films,
voilà,
n'est-ce pas ?
Voilà, il y a plus de 300 partitions de films, il y a plus de 500 chansons, il y a plus de 60 œuvres pour le théâtre, et on ne connaît pas encore très bien tout ce qu'il a écrit en parallèle, qui sont les petites pièces instrumentales, les émissions pour la radio, les dramatiques pour la radio et la télévision.
Sans compter,
voilà,
les pièces pour la scène, n'est-ce pas ?
Voilà.
Puisque Vamparis ne s'est pas contenté d'explorer tout ce répertoire-là, mais il a également écrit pour, absolument, l'opérette, la comédie musicale, la comédie-ballet.
Voilà, exactement. Donc en fait, le travail d'ayant droit, c'est déjà de répondre à toutes les autorisations qui arrivent et ensuite de savoir les gérer, c'est-à-dire de savoir à bon escient donner un accord ou ne pas en donner en ce qui concerne de toute façon uniquement le droit moral.
Qu'est-ce que le droit moral déjà ?
Alors voilà, qu'est-ce que le droit moral ? C'est-à-dire en fait, en ce qui concerne, si vous voulez, tout ce qui est la musique, c'est-à-dire qui n'est pas de l'ordre d'une pièce, c'est-à-dire qui est une création en indivision, qui est le cas des comédies musicales, des opérettes, etc., où il y a plusieurs auteurs. En ce qui concerne les chansons, c'est en fait tout le monde a on va dire entre guillemets le droit de produire ou de promouvoir une chanson sans en demander le droit moral aux ayants droit, sans en demander l'autorisation. Alors que sur une opérette ou sur une comédie musicale, c'est-à-dire une œuvre en entier, il faut passer par le système de la SACD qui demande aux ayants droit l'autorisation de faire jouer une pièce. Et donc là, nous donnons notre accord ou pas sur le montage scénique, on va dire, donc la recréation d'une œuvre entière.
Alors, vous soulevez un point intéressant. Évidemment, j'ai envie de jouer les poils à gratter, oui, et de vous demander pourquoi, quels sont les motifs qui vous guident quand vous donnez ou refusez une autorisation de jeu pour une œuvre de votre grand-père.
Alors, c'est assez délicat à expliquer. Je dirais que le contexte est la première chose, c'est-à-dire en fait de savoir quel est le metteur en scène, dans quel contexte se remonte la pièce, quel est le type de production et quel est le type de public. Ensuite, il y a aussi évidemment le fait de respecter le style de l'œuvre et donc d'être sûr que les personnes qui vont le remonter vont respecter un minimum le style de l'œuvre, c'est-à-dire le type de chanteur, le type d'orchestrateur, le type de mise en scène à la limite, pourquoi pas. Enfin, donc voilà. Donc ça, c'est une chose très importante. Et puis ensuite, ben, c'est un petit peu les affinités avec les gens. Si on sent bien la chose ou si on ne la sent pas. Et voilà. Et puis, on peut se tromper parfois ou ne pas se tromper.
Merci Nathalie. Je vous propose d'écouter un extrait de la musique du film Casque d'or, oui, de Jacques Becker en 1951,
oui,
par l'Orchestre symphonique de Hongrie sous la direction de Laurent Petit-Girard. Nathalie Vamparis, nous venons d'entendre cet extrait de Casque d'or, la musique du film de Jacques Becker.
Oui.
Et vous me parliez, vous nous parliez il y a quelques instants du respect du style et du style de Georges Jean-Paris. Alors, question piège, qu'est-ce que le style de Georges Jean-Paris ? Nous venons d'en avoir un extrait qui peut-être vous servira d'appui.
Oui, ben, en fait, on peut dire que Georges Jean-Paris est un compositeur qui fait partie... Déjà, c'est un des précurseurs de la musique de film, donc ça c'est très important. Il reçoit une éducation musicale extrêmement classique, puisque c'est un pianiste à la base, et qui, par le fait qu'il ait eu deux sœurs qui chantaient admirablement, et qui l'accompagnait au piano depuis l'âge de 5-6 ans ou 7-8 ans, je ne sais pas exactement. Il a à son actif, on va dire, une culture musicale de l'opéra très importante, puisqu'il accompagnait ses sœurs pour chanter l'Acmé, Carmen et tout ça. Donc en fait, il a déjà un background très important de la culture lyrique française. Et il était particulièrement touché, sensibilisé par la musique de ses presque contemporains, c'est-à-dire Debussy, Ravel, avec aussi une très grande admiration pour Chopin. Et je crois que son style musical a été très influencé par les compositeurs dont je vous parle là maintenant. Donc en fait, on peut dire que c'est un compositeur qui est influencé par la musique classique, hein, très fortement, et par la musique lyrique. Ce qui va donner tout au long de son œuvre cinématographique et aussi, bon, les opérettes, c'est encore un autre problème, mais aussi dans son œuvre, on va dire, dans la chanson, un style mélodique qui est vraiment sa particularité, parce que tout le monde parle de lui comme un mélodiste hors pair, René Clair le premier. Et donc, on va dire que son style est vraiment basé sur la mélodie, et sur une orchestration de type classique, on va dire. Il ne s'est pas du tout un compositeur qui a été influencé par la musique contemporaine du début du XXe siècle, mais plutôt par la fin du processus de l'écriture classique, de Bach jusqu'à justement Fauré, Debussy, Ravel, quoi. Voilà.
Pour illustrer votre propos, Nathalie, nous allons entendre un pastiche de concerto pour piano de Mozart.
Absolument, à la demande de René Clair.
Voilà, et je crois qu'il y a une anecdote, et je ne résiste pas à vous demander de nous la conter.
Bah écoutez, il écrit dans son livre la manière dont s'est déroulée cette demande de René Clair, qui voulait absolument un concerto de Mozart pour le générique de son film Les Grandes Manœuvres. Donc il demande à Georges Monparis, directeur musical du film, de lui trouver un concerto de Mozart d'une minute trente, pour le générique. Et donc, évidemment, Georges Jean-Paris lui répond, ou en tout cas pense qu'il serait vraiment absurde et irrespectueux de réduire un concerto de Mozart à une durée d'une minute trente. Et il propose à René Clair d'écrire un petit concerto d'une minute trente à la manière de Mozart. Et donc, il fait écouter sa composition à René Clair, qui est enchanté, et qui lui dit ben, que certainement il y aura beaucoup de musicologues français qui se pencheront sur ce générique pour se demander de quelle œuvre de Mozart est issu le générique des Grandes Manœuvres, tellement c'est joliment écrit à la manière de Mozart, justement.
Écoutons. Nathalie,
oui.
Faisons un bond dans le temps.
Oui.
1922, Paris. Oui. Votre grand-père, Georges Van Paris, a 20 ans tout juste.
Oui.
Et dès 1924, alors qu'il est déjà un musicien confirmé, un pianiste tout à fait talentueux, nous le retrouvons dans un cabaret alors très célèbre, chez Fischer, à Pigalle.
Oui, absolument. En fait, il est en train de finir ses études de droit, parce que son père voulait absolument qu'il fasse des études, donc il passe sa licence de droit, et il faut bien qu'il gagne sa vie. Et pour gagner sa vie, eh bien, il accompagne les chanteurs montmartrois de l'époque et il se fait engager chez Fischer en 1924, qui est un cabaret tout à fait spécial de la rue d'Antin dans le 9e arrondissement et qui est tenu par un monsieur absolument extraordinaire. C'est une espèce de petit boui-boui qui n'a absolument rien de sélect. Au contraire,
oui,
c'est plutôt assez...
La réputation de chez Fischer, c'est que c'est absolument infâme,
c'est
mais irrésistible.
Voilà, c'est infâme. Et surtout les gens, la haute société s'y précipite parce que ça a la réputation d'entendre des artistes absolument formidables. Et ce monsieur qui tient le cabaret Fischer est particulièrement drastique avec le public. C'est-à-dire qu'il ne veut absolument pas que les gens n'y parlent, n'y boivent, etc. pour défendre ses artistes.
Mais et il est quand même voilà. très rude, je crois, Fischer, ses artistes.
Il est aussi très rude avec ses artistes.
Déjà,
c'est-à-dire,
il tient
d'une main de maître tout ce petit monde. Et effectivement, là vont débuter les grandes chanteuses, on va dire, de la chanson française de l'époque, qui sont Yvonne Georges, Lucienne Boyer, Gaby Montbreuse et même Arletty. Et donc, en fait, Georges Van Paris, pendant 3 ans, devient l'accompagnateur des chanteuses de l'époque, débutantes ou confirmées chez Fischer. Et c'est une période de sa vie qu'il gardera toujours en souvenir, parce que c'est vraiment la jeunesse dorée, on va dire. Ils se sont énormément amusés dans ce cabaret. Et c'est vrai que là, il a fait sa réputation d'accompagnateur. Il était très, très, très apprécié par les chanteurs de l'époque comme accompagnateur, par son humour, mais aussi par ses qualités musicales.
Est-ce qu'on peut dire que Georges Van Paris, allez, en fonçant des portes ouvertes, fait son petit conservatoire de la chanson chez Fischer et découvre ce monde-là?
Bah écoutez, en tout cas, je pense que ça lui donne certainement une expérience professionnelle hors pair, ça déjà. Ça lui fait connaître, évidemment, la chanson française, et puisqu'il va en devenir le spécialiste, il va en écrire lui-même une flopée absolument incroyable. Donc, on peut dire aussi que ça, c'est le foment d'une certaine partie de sa carrière de mélodiste et de compositeur de chansons. À l'époque, il en écrit peu encore. Il écrit surtout pour lui-même et il commence à écrire des opérettes, puisque juste un petit peu avant, il fonde avec son compagnon, son collaborateur Philippe Parès, il fonde la Société des Jeunes Arts, où il va créer sa première opérette qui s'appelle Madame la Comtesse et qui aura comme vedette Griselle d'Orgeais, qui deviendra la princesse de Monaco.
Oh.
Voilà. Donc tout ça, c'est un petit ils ont 20 ans quoi, voilà, ils débutent leur carrière en faisant cette Société des Jeunes Arts qui comporte, si je regarde le livre Les jours comme ils viennent, donc ses mémoires à lui, Georges Van Paris.
Oui, parce que Georges Van Paris, justement, je voulais en venir là, en vous entendant parler de cette époque, qui n'est pas simplement un pianiste et un auteur de musique, c'est aussi une plume qui nous a laissé un volume de mémoire absolument extraordinaire.
Oui.
40 ans de vie parisienne et de création artistique, détaillée au jour le jour, dans une langue très très pure, imagée, fantasque, pleine de fantaisie et d'une drôlerie souvent assez étourdissante.
Oui, oui, tout à fait. Et alors il décrit cette Société des Jeunes Arts qui entre dans sa 3e saison avec une vigueur toute nouvelle et qui contient Monsieur Théodore Dubois de l'Institut, le compositeur Gaston Gabaroche et le distingué poète René Fauchois qui ont accepté de faire partie du comité d'honneur et il se trouve promu à la fonction de directeur musical et il fait fichtre. Donc voilà. Donc en fait, pour reparler de cette époque Fischer qui a tellement marqué son esprit de musicien, Il y a une chanteuse qu'il affectionnait particulièrement, c'était Yvonne Georges, qui était donc l'égérie du groupe des Six. On l'oublie parce qu'en fait, elle a fait une carrière très courte.
Très courte, parce qu'elle est morte, hélas, dans des conditions tragiques, et en 1931.
Voilà. Et Yvonne Georges était une femme qu'il décrit comme une nature absolument extraordinaire, avec un sens dramatique magnifique, et une chanteuse à tripes, on dirait aujourd'hui, hein, avec un regard et un visage extrêmement lumineux et un timbre de voix et une émotion qui passe dans ses chansons qui sont restées pour lui quelque chose d'extrêmement... Il en rêvait encore à l'âge de 50 ans, 60 ans, et il la revoyait jeune à l'époque. Et je pense que vraiment c'est quelqu'un qui l'a énormément marqué.
Van Parys parle souvent d'Yvonne Georges, justement, dans les émissions de radio qui nous sont parvenues, oui, dans ses mémoires, Les jours comme ils viennent, et on ressent une espèce de fascination absolue,
voilà,
pour une artiste incroyable qui se produisait dans ce cabaret, qui était extrêmement applaudi et apprécié du petit monde qui pense, du Paris d'alors,
oui,
et qui, par bonheur, nous a laissé des enregistrements.
Oui.
Et je vous propose d'écouter Yvonne Georges.
Oui, avec plaisir.
Accompagnée par votre grand-père.
Je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir, pas sans un mot d'adieu, pas laisse-moi souffrir, le vent qui t'apporte à ton porte, et tu sais j'en mourir, qu'importe, pas sans te retourner, pas sans te souvenir. Ne t'excuse pas, tu n'es pas coupable, n'aie pas de pitié, n'aie pas de regret, pour moi seulement. Je suis pitoyable, mais mon désespoir reste mon secret. Tu veux, sans remords, briser notre chaîne. Nous ne sommes plus que deux étrangers. Poursuis ton chemin sans craindre ma haine, car d'autres sauront bien mieux me venger. Puisqu'après tout, va, on te trahira, et comme moi, tu souffriras. Pars, sans te retourner, pars. Sans te souvenir, ni mes baisers, ni mes étreintes, en ton cœur non laissé d'empreintes, je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir, pars, sans un mot d'adieu, pars, laisse-moi souffrir, le vent qui t'apporte à ton porte, et tu sais en mourir, qu'importe, pars, sans te retourner, pars, sans te souvenir. C'est de notre amour l'affreuse agonie, et tout comme lui, moi, je nous meurs. L'ombre nous détient, c'est dans le destin. Les voiles nous voient, qu'apprendront des pleurs. Tu ne sauras pas toute ma détresse, tout le vide affreux de ton abandon. Prendons un baiser, je vous me charrerai. T'en iras avec mon pardon. Le souvenir est un chemin très long, long par tout, à reculons. Ah, sans te souvenir, ah, sans te souvenir, mes baisers, mes étreintes, dans ton cœur, mon esprit, ton bras. Je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir, pas dans un bout d'adieu, pas laisse-moi souffrir, le vent qui t'apporte à mon porte, tu sais j'en mourir, qu'importe, pas sans te retourner, pas sans te retourner.
C'était Yvonne Georges. Chantant par...
Ouais, la chanson fétiche, hein, si merveilleusement et émotionnellement interprétée. Ouais.
Une tragédienne de la chanson.
Voilà, exactement.
Alors, 1927, le théâtre de nous, oui. Georges Van Parys se lance dans l'opérette.
Oui, en fait, c'est avec son compagnon collaborateur, Philippe Parès, qu'il connaît donc depuis les bancs du cours Lavagne, professeur de piano, et ils écrivent une musique, ils essayent de se faire jouer, donc, et donc ils veulent absolument faire une opérette, et ils vont voir Serge Weber, hein, qui est donc à l'époque le fils de Pierre Weber, qui a déjà un tout petit peu plus de carrière que eux.
Oui, c'est déjà Pierre Weber est plus âgé, et c'est un revuiste absolument bien établi sur la place de Paris, et son esprit est réputé. Pour ces saillies un peu acides.
Oui, et donc ils vont voir Serge Weber, qui les prend donc pour la création de sa nouvelle opérette, qui va être jouée au Théâtre Daunou et qui sera la première opérette de Georges Vamparis, Philippe Parès et Serge Weber, Lulu, et qui donnera, suite à son succès, une série de trois autres opérettes qui sont, les deux autres sont donc Louis XIV et L'eau à la bouche. Voilà.
Et L'eau à la bouche a été créée par Fernand Gravé.
Voilà, et donc dans cette opérette au Théâtre Daunou, il y a un jeune acteur qui n'est pas vraiment chanteur, vraiment, mais en tout cas qui chante et dans Lulu et dans L'eau à la bouche, la fameuse chanson dont vous voulez parler, c'est-à-dire
il a une belle auto-toto.
Toto.
On dit de moi que j'ai fait des dettes, signé des chèques sans provision. Que je ne suis pas honnête et qu'on a perdu des visions. Que je ne suis pas non plus très fier de mon casier judiciaire. Que j'ai zigouillé un vieil oncle et que parfois j'ai des furoncles. L'air provincial, des mœurs spéciales. Il a ceci, il a cela, mais voilà. Il a une belle auto, toto. Cécile, un sans soupape, quatre portes. Où l'on peut s'en stresser, faire ses courses et s'embrasser. Il triche au jeu, il boit, mais qu'importe. Il a une belle auto, toto. C'est bien pour ça qu'on le supporte. Il n'est pas riche ni beau, mais par contre il est idiot. Il a une belle auto, toto. Est-ce qu'il est bien de sa personne? Est-ce qu'il est jeune, intelligent? Est-ce qu'il sort sans sa bonne? Est-ce qu'il n'est pas trop négligent? A-t-il un tout petit peu d'esprit? Est-ce qu'il a le mollet bien pris? Qui fréquente-t-il entre nous? Est-ce un habitué du nounou? Est-il poli? Pipi au lit? Je ne sais pas, mais chez qu'il a? Il a une belle auto, toto. Cécile, un sans soupape, quatre portes. Où l'on veut sans se presser, faire ses courses et s'embrasser. Il triche au jeu, il boit, mais qu'importe. Il a une belle auto, toto. C'est bien pour ça qu'on le supporte. Il n'est pas riche ni beau, mais par contre il est idiot. Il a une belle auto, toto.
Nathalie Vamparis, 1930.
Oui.
Et le cinéma se met à parler. Depuis 1929, depuis Sous les toits de Paris,
oui,
de René Clair.
René Clair.
Et Georges Vamparis va très vite être appelé à être un compositeur de ce qu'on appelait alors la musique de fond,
oui,
qui va faire une carrière absolument impressionnante dans le genre de compositeur de musique de film.
Oui.
Alors, dans un opus de votre grand-père intitulé « Le cinéma par ceux qui le font », il s'amuse avec sa plume toujours élégante à décrire ce qu'était alors le cinéma. Mm-hmm. Et comment, peu à peu, la musique de cinéma est devenue quelque chose d'absolument essentiel à toute œuvre cinématographique.
Quelques compositeurs se mirent à écrire ce que, dans notre jargon, nous nommions des incidentaux. Chacun de ces morceaux se référait à un genre nettement déterminé. Certains de ces incidentaux acquirent une réelle notoriété parmi les chefs d'orchestre de cinéma. Il y avait, entre autres, un certain Orage du compositeur Poré, fort utilisé par ces messieurs. Les sombres accents de l'œuvre pouvaient tout aussi bien évoquer les perturbations atmosphériques annoncées par le titre que les incendies de forêt, les remous d'un cœur meurtri ou les plus terribles catastrophes de chemin de fer.
Et Georges Vamparis se retrouve ainsi intégré dans le petit monde des compositeurs de cinéma.
Oui, et vous savez que c'est grâce à Armand Bernard, qui est donc le chef d'orchestre de Lulu, puisqu'on parlait de ses débuts au théâtre avec l'opérette Lulu, qui fait le lien, donc, puisque René Clair cherche à l'époque un compositeur pour son prochain film après Sous les toits de Paris, qui va s'appeler Le Million. Il cherche un compositeur ou des compositeurs qui soient spécialisés dans le genre opérette, puisque tout son film se base sur, justement, cela veut être un film musical. Et donc, c'est Armand Bernard qui met en contact Philippe Parès et Georges Vanparis. Ils vont être trois à écrire la partition du Million. Et Georges Vanparis, c'est vraiment la première fois son premier contact avec le cinéma, qui est un choc. Puisque, évidemment, les techniques sonores débutent à peine, que lui, il n'a jamais fait ça de sa vie, et qu'il est complètement déboussolé par des mots dont il n'a absolument jamais entendu parler, donc post-synchro, synchronisation, etc. Et donc, il essaye de faire bonne figure face à René Clair, qui est un monsieur qui, paraît-il, est déjà assez impressionnant à l'époque. Et il a bien l'intention d'en savoir un petit peu plus. Et malheureusement, ni Philippe Parès, ni Armand Bernard ne savent pas plus que lui ce que ça veut dire post-synchronisation. Et donc, c'est vraiment le début de sa carrière cinématographique. C'est vraiment de l'impro totale, quoi.
Parce que votre grand-père, en plus, quand même, à ce moment-là, se renseigne beaucoup sur les compositeurs, sur ses collègues, sur un compositeur qui va être un peu à son égal. Au moins dans la décennie des 30-40, un compositeur très prolifique et très demandé du cinéma musical français et de la musique de film en général, c'est Raoul Moretti. Oui. Puisque Raoul Moretti a écrit la musique de Sous les toits de Paris et la chanson de titre. Et votre grand-père, à ce propos, fait une délicieuse chronique des conditions de création et de composition de
cette chanson. Paris, oui.
Alors, je vous propose d'un seul trait d'entendre les mots de votre grand-père racontant l'amusante histoire de la naissance de cette chanson pour le film de René Clair, suivi de l'interprétation de cette chanson dans un enregistrement d'époque.
Je n'ai pas encore vu le premier film parlant de René Clair, Sous les toits de Paris, mais déjà la chanson qui en est le leitmotiv est fredonnée partout. C'est une valse de Raoul Moretti qu'interprète un jeune acteur, Albert Préjean. Dans tout Paris, les chanteurs des rues s'installent au carrefour pour la seriner à l'accordéon. On m'a demandé une version bien pittoresque des conditions dans lesquelles le motif de cette chanson est venu sous les doigts de Moretti. Un jour qu'il avait découvert l'infidélité de sa petite amie, il s'était assis à son piano et, plaquant quelques notes, il avait improvisé une mélodie de quelques mesures en chantant rageusement « Paillasson, paillasson, tu n'es qu'un paillasson ». S'apercevant que ces premières mesures constituaient un bon départ de chanson, il les avait notées soigneusement en refoulant sa mauvaise humeur, puis en avait développé le thème pour en faire un refrain complet. Lorsque René Clair avait demandé à Salabert de lui proposer un musicien pour écrire la chanson de son film, on l'avait mise en présence du compositeur déçu et peut-être déjà consolé. Celui-ci lui avait joué son refrain dont René Clair s'était déclaré enchanté. Et le parolier Nazel avait immédiatement trouvé les paroles qui s'y adaptaient. « Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini ».
Sous les toits de Paris, dans la chambre de Nini, ils s'aimaient, c'est si bon d'être unis. C'est quand on a 20 ans, quand fleurit le printemps, qu'il faut s'aimer sans perdre un instant. L'air était très pur, le ciel d'azur. Elle dit, je crois, puis elle se donna. C'est ainsi qu'en ce jour, le vainqueur comme toujours, sous le toit de Paris, fut l'amour. Malgré les serments, elle a son amant, la quitta cruellement. La pauvre Nini pleura bien des nuits. Un soir on frappe, c'était lui. Il supplia, ma chérie, j'ai eu tort. Pardonne-moi, tu sais, je t'aime encore. Sous les toits de Paris, quelle joie pour Nini de trouver un passé. Ton chéri, quand il dit maintenant, tu sais, c'est le moment pour se marier tous les deux gentiment, car rien n'est cassé, tout est effacé, oublie le passé et viens m'embrasser.
passé. Vite Nini pardonna et le bonheur s'installa sous les toits de Paris. C'est comme ça.
Van Paris est dans le bain du cinéma musical. Le voici avec son million. Oui. Et c'est un succès.
Oui, c'est un succès. C'est le premier film sonore musical français quand même. Et donc,
qui a une particularité quand même assez étonnante, c'est qu'il est quasi intégralement chanté.
Quasi intégralement chanté.
Il y a très peu de répliques parlées.
Voilà. Et il raconte comment tout est à inventer en ce qui concerne la musique qui accompagne les images à l'époque, hein, puisque c'est vraiment tout nouveau. Et en fait, c'est vraiment étonnant de voir comment il raconte qu'il est avec son chronomètre pour essayer de voir le nombre de minutes et de secondes que font le chœur d'entrée qui monte l'escalier. Et ensuite, parce qu'en fait, les techniques du cinéma, c'est toujours on filme scène par scène, mais jamais dans le bon ordre. Et donc, en fait, il joue avec son chronomètre à suivre partout tout le monde sur le tournage pour ensuite pouvoir enregistrer en post-synchronisation, donc après le tournage des images, ce qui va correspondre au déroulement sonore de chaque scène. Donc voilà. Et ça va donner ensuite, il va commencer une carrière cinématographique qui ne va plus s'arrêter jusqu'à sa mort, en fait.
Mais alors,
à partir de ce film-là.
Mais alors, du coup, au cinéma, Georges Van Paris écrit de la musique de fond, de la musique de générique, de la musique de film pour accompagner les scènes, mais aussi des chansons, puisque la tradition du cinéma français, le cinéma est parlant, il faut absolument que cela se comprenne très facilement, c'est un argument de vente. Et du coup, le cinéma parlant est surtout chantant.
Absolument.
Et donc, il y a des chansons, racontez-nous tout ça.
Oui, c'est-à-dire, en fait, les débuts du cinéma, c'est vraiment les premiers films. Hein, on parle de L'arroseur arrosé. Évidemment, c'est la veine comique qui est la première chose auquel on pense. Et donc, on fait appel aux artistes de music hall pour faire les débuts du cinéma parlant et du cinéma chanté. Donc, évidemment, incontournablement, ces artistes qui viennent du music hall, comme Dranem, comme Maurice Chevalier, comme même Jean Gabin, sont des artistes qui savent chanter. Et donc, du coup, la chanson va prendre incontournablement un rôle... on va dire médiatique, publicitaire du film, c'est-à-dire que tout le film, toute la publicité du film va être faite par la chanson du film. Et c'est pour ça que la chanson au cinéma a une telle importance à l'époque.
Prenons quelques minutes pour avoir le plaisir d'écouter Daniel Darieux et Henri Gara dans une chanson de film.
Oui.
Je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon.
Oui, du film C'est un mauvais garçon.
En 1936.
Je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon. Je ne donnerai pas ma place, elle est trop bonne et j'ai le filon. Tous mes ennuis s'effacent, l'espoir est dans mon cœur. À tous les gens qui passent, je veux crier mon bonheur. La plus belle fortune ne me ferait pas plus plaisir. Je refuserai la lune si l'on venait me l'offrir. Je ne donnerai pas ma place pour celle du voisin. Je ne donnerai pas ma place et
tu
le
parles,
roi
je
n'est
ne
pas,
pas
mon cousin.
Rockefeller ou Pierre Fondmorgan me coucheraient sur leur testament que je ne serais vraiment pas plus heureuse. Je ne crois pas que sous le soleil il existe un bonheur pareil. Ah, que la vie me semble merveilleuse. Je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon. Je ne donnerai pas ma place, elle est trop bonne et j'ai le filon. Tous mes ennuis s'effacent, l'espoir est dans mon cœur. À tous les gens qui passent, je veux crier mon bonheur. Je ne donnerai pas ma place pour celle du voisin. Je ne donnerai pas ma place et le roi n'est pas mon cousin. Thank you.
la chanson de titre, C'est un mauvais garçon, qui est quand même un tube international.
Oui.
Parlez-nous 3 secondes de cette chanson avant de continuer sur l'épisode Jean Boyer, Georges Vamparis.
Oui, bah écoutez, c'est une chanson super marrante, C'est un mauvais garçon, qui est restée vraiment dans le répertoire classique de la chanson française, hein, comme de bien entendu d'ailleurs. Voilà, difficile à dire au micro.
Mais qui s'est composé au téléphone, si je ne dis pas de bêtises.
Qui s'est composé, pas celle-là, c'est Mimille qui s'est composé au téléphone.
Oui.
Voilà. Et en fait, la collaboration Georges Vamparis, Jean Boyer, ça va être une richissime collaboration, puisqu'ils ne vont pas se quitter quasiment avec une très grande fidélité, et en amitié et dans le travail, qui va donner une série de chansons absolument incroyables. Il y en a, je ne sais pas combien, peut-être 60 chansons qu'ils ont écrites ensemble, plus des opérettes, plus des films, puisque Jean Boyer est donc réalisateur, cinéaste aussi, puisque c'est lui qui est donc le cinéaste de Circonstances atténuantes, donc avec Michel Simon, Arletty, et qui donnera donc cette fameuse chanson « Comme de bien entendu », qui va partir d'une anecdote, puisqu'ils sont en train d'essayer de se demander qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme chanson, puisqu'ils ont justement un plateau magnifique avec 5 acteurs qui sont des super chanteurs aussi, dont Dorville aussi, Arletty, Michel Simon. Et ils se disent, voilà, il faut absolument une chanson pour le film, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Le producteur n'est pas très d'accord, mais c'est pas grave, ils n'en ont rien à faire, ils continuent. Et ils se souviennent, alors ils sèchent, ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils vont faire et tout. Et puis tout d'un coup, ils parlent à dîner d'un ancien camarade de classe, donc ça veut dire qu'ils se sont connus vraiment très très jeunes aussi, un peu comme Philippe Parès, hein, d'un ancien camarade de classe qui disait à tout propos, comme de bien entendu au lieu de bien entendu. Et alors Jean Boyer dit, ben voilà, ça y est, on a trouvé, c'est la super chanson. Et ils mettent 2 heures à l'écrire parce qu'après ça va très très vite. Et voilà, et donc tout le monde se marre sur le plateau quand ils entendent Michel Simon et Arletty chanter « À l'été jeune et belle ». Voilà, comme de bien entendu.
Nathalie Vamparis, pour le disque qui vient de paraître chez Universal et que dirige Laurent Petit-Girard, vous avez beaucoup contribué à l'existence et à la mise à jour de certaines partitions en tant qu'artiste, en tant qu'ayant droit, en tant que chercheuse.
Oui.
Racontez-nous.
Mais écoutez, en fait, on doit ce disque déjà au directeur artistique de la collection Écoutez le cinéma, donc chez Universal, qui s'appelle Stéphane Le Rouge, et qui m'a contacté pour me dire qu'enfin, la décision avait été prise dans la collection de sortir un premier hommage discographique à Georges Vamparis, chose qui n'a jamais été faite. Donc ce disque est un événement, vraiment, puisque aucun enregistrement des musiques, ni même une compilation des chansons de musique de Georges Vamparis n'existe à l'heure actuelle sur le marché. Et donc, nous avons commencé à chercher donc, de quoi faire ce disque, et Stéphane Le Rouge s'est adressé à Patrick Marclan, qui est donc le directeur des éditions Transatlantique, qui avait gardé très précieusement les bandes originales des films de son père, hein, des éditions Transatlantique. Et donc, on a commencé
quelle
à retrouver,
chance.
Oui, quelle chance, un certain nombre de bandes originales. Et on a commencé à faire le disque avec ça, sans penser qu'on s'est... Enfin, on s'est aperçu qu'en fait, tout ce qui restait des bandes originales ne concernait que des films mineurs, qui font donc partie de la deuxième partie de ce disque, qui est très intéressante parce qu'il y a des très jolies mélodies et des choses que personne ne connaît. De films qui n'ont pas fait une carrière comme certains autres, mais que par contre, sur toutes les, on va dire, les chefs-d'œuvre, certains chefs-d'œuvre du cinéma français, qui sont donc justement Casque d'or, Les Belles de Nuit, French Cancan, Madame 2, enfin tous les gros films auxquels Jean Paris, voilà, auxquels Jean Paris a collaboré en tant que compositeur de musique de films, eh bien, il n'existait plus rien. Et donc, en fait, on s'est trouvé très rapidement à se dire, ben voilà, le disque n'existera pas si nous ne pouvons pas décider, les éditeurs, à réenregistrer ces musiques grâce aux partitions manuscrites que j'ai à la maison, donc, de ces films, puisqu'on a le conducteur, orchestre, au moins. Donc, voilà. Donc, on a décidé d'en parler aux éditions Semi-Méridien, à Bruno Lyon, qui est donc le directeur artistique de ces éditions, et qui nous a donné son accord, chose auquel il faut vraiment le remercier, pour enregistrer une demi-heure de musique pour continuer à faire ce disque, pour qu'on puisse le sortir.
Parce que quand même, saluons au passage la prise de risque que constitue ce genre d'opération.
Absolument.
De nos jours, sans jouer les réactionnaires, il y a assez peu de maisons qui osent faire de l'exhumation et de l'enregistrement nouveau de, entre guillemets, vieux répertoire. J'entends par là ce qui ne passe pas au top 50 et qui ramène beaucoup d'argent de manière immédiate.
Voilà. Et donc, en fait, c'est un investissement qu'ont fait les éditions Semi-Méridien et les éditions Sido Musique en ce qui concerne la partition des Misérables de Jean-Paul Chanois, qui est un générique, c'est une partition symphonique absolument magnifique aussi.
Et si vous me permettez de vous interrompre, cette partition des Misérables a l'air d'exciter énormément de musiciens et de chefs d'orchestre. Jean-Christophe Keck, qui est le monsieur Offenbach mondial et qui mène par ailleurs une carrière de chef d'orchestre, m'indiquait récemment avoir eu la chance, parce qu'il le prenait pour un véritable honneur et une chance inouïe, de diriger la partition des Misérables, avait été pour lui un grand choc culturel.
Oui, tout à fait.
Parce que la partition est, comme on peut d'ailleurs l'entendre dans les extraits présents sur le disque,
oui,
des musiques de films de Georges Amparis, quelque chose de musicalement exceptionnel.
Oui, tout à fait. Écoutez, voilà, ça a été une aventure qui s'est décidée extrêmement rapidement, parce qu'on avait très peu de temps avant la sortie du disque. Et donc, nous avons à remercier aussi Laurent Petit-Girard qui a donné son accord immédiat du jour au lendemain.
Interromps, parce que comment avez-vous choisi Laurent Petit-Girard? Pourquoi?
Bien, écoutez, c'est Stéphane Lerouge qui m'a proposé deux personnes. La deuxième personne, j'ai dit non, mais je ne citerai pas la personne. par décence pour le métier. Et non, simplement, quand il m'a parlé de Laurent Petit-Girard, j'ai dit oui tout de suite, parce que je savais immédiatement que la professionnalité, l'expérience en tant que compositeur de musique de film et tout le background de chef d'orchestre et de musicien, le background classique, on va dire, de ce musicien était absolument indispensable pour faire une opération comme ça en si peu de temps. Et je savais, j'étais certaine de la qualité. J'étais certaine de la qualité musicale qu'aurait cet enregistrement si c'était dirigé par Laurent Petit-Girard. Et je ne me suis pas trompée. Et donc, nous avons été à Budapest, enregistrés avec l'Orchestre Symphonique de Hongrie, les partitions, recopiées, le matériel d'orchestre spécialement refait pour cet enregistrement exceptionnel des plus grandes, on va dire, les compositions phares de Georges Amparis de l'époque, c'est-à-dire French Cancan, Casque d'or, Madame II, Les Misérables, Nana, Les Belles Manœuvres, Les Grandes Manœuvres, Les Belles de Nuit. Voilà.
Je crois que vous avez un faible pour la musique de Nana, Nathalie.
Oui, j'ai un faible parce que je la trouve très belle. Je crois que Georges Amparis l'a considérée comme une de ses meilleures réussites au cinéma, ce qui n'est pas aussi négligeable. Et qu'ensuite, elle donne vraiment un très très bon exemple de ce qui lui tenait à cœur, lui, dans son style de composition pour le cinéma, c'est-à-dire l'utilisation d'un thème musical qui parcourt le film et qui suit la situation dramatique de chaque partie du film. C'est-à-dire que pour lui, la musique doit coller à la situation dramatique et émotionnelle du film. Et dans ce film-là, on a vraiment l'exemple d'un thème mélodique qui part d'une chanson très olé-olé, genre Second Empire, qui s'appelle « Faut que ça saute ». Donc le titre en lui-même est très parlant, on va dire, chanté par Martine Carole à l'époque, et qui, selon la situation dramatique du film qui évolue comme on sait dans le roman d'Émile Zola, Nana, c'est-à-dire par l'étranglement de Nana, évidemment, ça finit très mal. Et la musique suit le déroulement dramatique et finit par ce même thème musical qui finit en drame lyrique, en lead romantique, écrit à la façon d'un lead romantique, voilà, pour suivre la situation dramatique qui finit très mal dans ce film, quoi.
Écoutons Laurent Petit-Girard, l'Orchestre symphonique de Hongrie,
et qui s'appelle Étranglement.
Étranglement dans la musique du film Nana. Alors évidemment, Nathalie Van Paris, avec l'arrivée de la télévision, votre grand-père est appelé à écrire pour le petit écran.
Bien sûr. Alors déjà, il y a une chose, c'est qu'il fait partie, de ces compositeurs qui vont suivre la, on va dire entre guillemets, la charrette des réalisateurs qui vont être obligés brutalement d'arrêter leur carrière par l'avènement de la nouvelle vague, donc avec Jean-Luc Godard, François Truffaut, etc., puisque lui était attaché, on va dire, au cinéma classique, hein, avec Max Ophüls, avec René Clair, et que donc c'est vrai que l'arrivée de la nouvelle vague va stopper brutalement sa carrière cinématographique. Mais justement, en même temps, il y a la radio, bien sûr, qui existe depuis un bon moment, et la télévision. Et donc, il va se tourner plus vers l'écriture, la composition pour la télévision. Voilà. Et donc, en partie, il va écrire un certain nombre de choses. Mais la dernière chose qui va être son œuvre posthume, puisque le feuilleton télévisé sortira un an après son décès, c'est le feuilleton télévisé un peu phare des années 70, c'est-à-dire La Demoiselle
Nathalie,
d'Avignon.
Vous pouvez même dire culte.
Culte, voilà, j'ai cherché le mot. Le feuilleton télévisé culte des années 70, La Demoiselle d'Avignon. Dont il écrit la musique.
Que je vous propose évidemment d'entendre. Nathalie Van Paris, Georges Van Paris, dans Les jours comme ils viennent, évoque souvent l'Institut.
Ah. Vous voulez ça?
Ah, je veux ça.
Alors, vous voulez que je vous lise l'événement de la nomination de Jean Cocteau à l'Académie française?
Oui,
ça.
Oui.
Récité, enfin, oui. Du point de vue de
Dites-nous
Georges.
Dites-nous, Van Paris.
Du point de vue de Georges Van Paris dans son
L'élection
dans
de
son
Jean
livre.
Cocteau, oui.
Voilà. Alors, 17 octobre 1955. Il était temps que l'épée de Jean Cocteau lui fût remise, car c'est jeudi qu'il est reçu à l'Académie française. Tous ceux qui avaient contribué à la confection de l'objet, entre guillemets, c'est Cocteau qui parle ainsi, étaient invités cet après-midi chez Madame Weiss-Weiler, place des États-Unis. Dans son allocution, Pierre Benoît évoque de vieux souvenirs. Il parle de leur rencontre à Arcachon en compagnie de Raymond Radiguet. Il précise même que c'est Cocteau qui corrigeait les épreuves du bal du comte d'Orgel, ce qui ne semble pas lui être particulièrement agréable, car sa figure se rembrunit soudain à ce rappel. Néanmoins, accolade et remerciements envers du nouvel académicien. Un peu obscur, sa poésie se termine par deux vers que je crois avoir retenus fidèlement. Les pourpres de la honte osant dire merci à l'ange dont la bouche éjacule une épée. Cette éjaculation en a fait sourire plus d'un parmi l'assistance. Et en fait, il termine le livre, le 21 décembre 1967, par la description d'une réception chez Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel. Et Maurice Genevoix s'indigne non sans humour du jargon qui dénature la langue française. Et Jean-Jean Paris finit ce petit article qui terminera ce livre par le fait que effectivement il ne peut pas lui suivre de près l'évolution du langage qui suit donc tous les domaines de l'art, des sciences et des mœurs, etc. Et que pour lui rester jeune c'est savoir s'adapter. Et ne pas se mettre à avoir porté les cheveux longs et des favoris touffus. Rester jeune, c'est aussi s'enthousiasmer pour les gigantesques et sinistres cages à poules dans lesquelles on veut enfermer les humains. Lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Et pour lui, la jeunesse se situe en des endroits beaucoup plus profonds de la personnalité. Et il finit par dire « Mon fils m'a dit un jour, vraiment toi, tu n'es pas mûr ». Et c'est un compliment qui lui est allé droit au cœur. Voilà, donc ça résume un petit peu, moi, cette fin de livre, ça résume un petit peu, en fait, la gaieté, l'humour et l'esprit extrêmement, extrêmement juvénile, on va dire, de ce compositeur et de toute sa génération. Parce qu'en fait, on va dire que René Clair, Jean Boyer et tous les gens qui l'ont entouré fidèlement étaient des gens qui prenaient la vie avec beaucoup d'ironie. Et malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées, puisqu'ils ont quand même traversé deux guerres, hein, donc ce ne sont pas des époques faciles, mais il y a toujours cet esprit à la fois très élégant, mais très extrêmement gai et toujours avec beaucoup de bonheur. Et je crois qu'il a écrit sa musique avec beaucoup de bonheur.
Et voilà. Puis, Nathalie, même dans les chansons de Jean-Jean Paris, il est question de l'Institut.
Ah oui.
Et oui, la chanson des Fortifs, vous souvenez-vous voilà. Du deuxième couplet, le Julot de Pigalle ou Montmartre,
voilà.
Qui devient académicien.
Mais
écoutez.
Oui.
Le poète en guenille, des rôdeurs et les filles, des chansons d'Aristide Bruand. Les héros populaires, les refrains d'avant-guerre sont bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Julot, Nili, Casque d'or et Petit Louis le Costaud, si célèbre alors? Que sont devenus les fortifications et tous les héros des chansons? Des maisons de six étages, ascenseurs et chauffage ont recouvert les anciens talus. Le petit Louis réaliste est devenu garagiste et Bruand a maintenant sa rue. Julot sera de l'Institut bientôt et Nini possède un château. Il n'y a plus de fortifications ni de petits bistrots de barrières. Adieu, décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Mais d'autres reviendront, héros différents, puis disparaîtront à chacun son temps. Il n'y a plus de fortifications, mais il y aura toujours des chansons. Chacun son temps, il n'y a plus de fortifications, mais il y aura toujours des gens.